9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé sur Beurre FM, alors on s'occupe de votre santé, de votre corps, de votre bien-être toute l'année entre 9h et 10h sur Beurre FM. Et nous allons réussir notre rentrée sportive ce matin, puisque vous le savez, le sport c'est la résolution de toutes les rentrées depuis des années. On va pas nous la faire, hein. Tous les ans c'est la même chanson. J'ai invité Farid Mebarki, bonjour Farid.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bienvenue, voilà, vous êtes coach sportif, spécialiste des transformations physiques et fondateur d'Evolu Corp qui propose des Evolu Coach en région parisienne. Vous êtes présent à Pavillon-sous-Bois, Roissy, Villemomble. Bon, ça y est, l'heure de la rentrée a sonné. Est-ce que vous vous sentez, par exemple, à la rentrée, qu'il y a un afflux de gens qui arrivent là, avec leur nouvel équipement?
Bien évidemment, comme tous les ans, il y a énormément de foule de personnes qui se mettent au sport, ce qui est très très bon. Hein. Le temps de laisser rentrer les enfants à l'école, et puis il y a les mamans, les papas qui commencent à se mettre à se prendre en main en salle. Donc septembre, octobre, il y a beaucoup beaucoup de monde en salle, que ce soit en salle de fitness, dans les clubs de sport ou peu importe, hein, c'est comme ça un peu partout. Mais après faut revenir en novembre, décembre, voir qui est resté. Mmh. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, ouais. Comment pérenniser l'effort, comment
c'est,
tenir
c'est le mot. L'année. C'est le mot ce matin, hein. Le mot c'est pérennité. Et on va voir comment tenir toute l'année, comment faire preuve de régularité. Bon, c'est vrai que tous les ans, les gens, ils vont s'inscrire à la salle. Voilà. Donc ça, c'est ça fait parmi des bonnes résolutions. Même autour de moi, j'ai plein de gens qui tous les ans se sont déjà fait avoir, mais qui quand même vont se faire réinscrire à la salle. Est-ce que les gens commencent à se poser la question du sport chez eux?
Ouais, ça fait déjà un petit moment, parce que dans le but d'optimiser l'effort, de essayer d'amener cet effort-là à la maison, c'est toujours, il y a un petit côté un peu pratique, un peu facile, qui est très important, dont on va en parler d'ailleurs. Maintenant, à la maison, la motivation, elle est plutôt fragile. On a vite fait de remettre la séance au lendemain, de faire autre chose, donc peut-être que l'environnement n'est pas propice à l'effort, même s'il y a un côté très pratique. On va voir les points ensemble qui sont essentiels pour vraiment essayer de tenir cette motivation toute l'année.
Alors, il y a différents objectifs. Hein. Il y a ceux qui veulent perdre du poids. Là, je regarde Kim. Hein. Il y a ceux qui veulent se muscler. Là, je regarde Kim aussi. Et puis, il y a ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Là, je regarde personne. Donc, finalement, c'est, en gros, on est... Et puis, il y a ceux maintenant, de plus en plus, qui veulent être en bonne santé. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait que le sport, c'est un gage de santé.
On parle de l'aspect physique, mais avant toute chose, il ne faut pas oublier cet aspect de santé qui est essentiel. Et j'irai même plus loin, l'aspect psychologique, l'état d'esprit, la confiance en soi, toutes ces choses-là qui vont être véhiculées par le sport sont primordiales. Et c'est vraiment le message qu'on essaye de transmettre avec EvoluCorp. Essayer justement d'apporter cette profondeur-là qui va au-delà de l'aspect physique, qui peut être souvent mal interprétée par les non-pratiquants du sport.
On est le 11 septembre aujourd'hui. En gros, parce que les gens ont besoin que ça se voit. Quand ils font des efforts, quand ils commencent à faire du sport, ils ont besoin que ça se voit. Combien faut-il de temps, en gros, pour obtenir des résultats significatifs? Voilà, aujourd'hui, 11 septembre, on se donne rendez-vous quand?
Ça, c'est la question à un million, ça. C'est la question. Hein.
Je veux c'est que ça question. Se voit. Je veux bien en baver, mais je veux que ça se voit.
Ça, c'est. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Les facteurs génétiques, chaque individu réagit différemment, l'organisme réagit différemment. Il faut laisser le temps, et ça, c'est hyper important, c'est un point essentiel. Il faut laisser le temps à l'organisme de s'adapter, d'assimiler les nouvelles habitudes, et donc de s'adapter. En conséquence, le premier mois ne comptez pas beaucoup sur des résultats. Il va falloir convaincre l'organisme que vos nouvelles habitudes s'intègrent dans une réelle hygiène de vie. Tant que l'organisme n'est pas convaincu, si vous n'avez pas gagné la confiance de votre organisme, c'est pas la peine, il va pas apporter de changement plus que ça sur son fonctionnement.
Alors en gros, comment est-ce qu'on gagne la confiance de son organisme?
Avec la régularité. C'est la régularité. Si ça fait 30 ans que vous avez des mauvaises habitudes, c'est pas avec une semaine de bonnes habitudes que ça va changer quelque chose. Il va falloir gagner la confiance. Il va falloir tenir les petits efforts régulièrement, chaque semaine, et continuer chaque mois, et ainsi de suite. Et plus ça va durer dans le temps, meilleurs seront les effets, les bienfaits. Et c'est là que les fondations même du corps vont être améliorées, vont changer en conséquence.
Mais bienfaits, ça se voit pas forcément.
Les bienfaits, ça se voit pas.
Alors que ce que les gens veulent, c'est que ça se voit.
Je suis complètement d'accord. Avant que ça se voit, on va compter en trimestre. Compter le premier trimestre pour la phase d'introduction, pour les nouvelles habitudes à mettre en place, etc. Commencer à laisser le temps à l'organisme de s'y faire. À partir du deuxième, troisième mois, ça commence à bouger. Et entre le troisième et sixième mois, généralement, ça bouge très, très bien.
Bien.
Et puis après, il va falloir conserver les acquis. C'est pas fini.
Alors, il y a une expression qui dit no pain, no gain. C'est on n'a rien sans rien. Le sport, Farid, c'est le matin, c'est à l'heure du déj, ou c'est quand on a fini la journée?
La journée dure 24 heures. Ça peut durer une heure tant que c'est dans ces 24 heures-là. On est bon.
Donc, il n'y a pas d'école, en fait.
Il n'y a pas d'école. Il faut que ce soit adapté à votre emploi du temps. Il faut que ce soit simple et pratique. Il faut que ce soit, faut pas que ce soit trop contraignant à mettre en place. Si ça a du mal à coller avec votre emploi du temps, vous allez avoir du mal à tenir ça toute l'année, surtout quand il y aura des périodes un petit peu plus compliquées, des baisses de motivation. Donc, faut que ça colle. Donc, ça peut être, après avoir déposé les enfants à l'école, hop, on va faire sa petite heure de sport. Ça peut être entre midi et deux sur la pause déj. Ça peut être après le boulot. Ça peut être en pleine nuit. Il y a de plus en plus de salles de sport qui sont ouvertes en
tard.
Pleine nuit.
Ouais.
Très tard.
Mais moi, j'ai vu que, par exemple, il y a énormément de coach qui conseille le créneau 17-18. Est-ce que ça repose sur quelque chose ou pas du tout?
Alors, il y a deux créneaux qui vont être privilégiés. C'est le créneau de matinée et en fin d'après-midi. Pourquoi? Alors, la matinée, on va favoriser très souvent des séances à jeun ou avec très peu de nutriments dans l'organisme pour favoriser ce qu'on appelle la lipolyse. Donc, la combustion des graisses va être un peu plus rapide à être mise en place par l'organisme. Donc on va certainement privilégier le matin dans le but de perdre du poids. Et encore, c'est pas non plus, ça fait pas toute la différence, hein. Et puis les séances en fin d'après-midi vont permettre d'être un peu plus performant, étant donné qu'on a plusieurs repas digérés dans l'organisme à ce moment-là. Donc on a les batteries pleines,
donc on a plus la niaque.
On a plus la niaque. Ouais, non, la niaque, c'est encore autre chose. C'est un facteur nerveux, c'est encore autre chose.
Ouais,
ça dépend de chacun. Si la journée de boulot a été dure, stressante, etc., ça va être difficile de rentrer dans la séance. Mais par contre, vous en sortirez en bien meilleur état.
Bon, quand on vient vous voir, vous commencez par quoi, vous? Quelqu'un arrive, c'est le premier rendez-vous.
Premier rendez-vous, ouais. On va s'asseoir et on va discuter pendant au moins une demi-heure pour bien comprendre les besoins, les attentes. Et c'est pas la même chose, les besoins, les attentes. Pour bien comprendre la personne que j'ai en face de moi, quelles sont ses habitudes de vie, quels sont ses antécédents sportifs, médicaux, etc. Est-ce qu'il y a, au-delà des objectifs physiques, est-ce qu'il y a des barrières psychologiques à faire tomber? Est-ce qu'il y a un travail sur l'état d'esprit à faire? Et c'est selon moi la principale mission qu'on doit avoir, que tout coach devrait avoir d'ailleurs. L'aspect physique, en réalité, c'est secondaire, c'est accessoire. Ça vient après, et puis, puis en fin de compte, la clé, ça reste quand même le mental. Si on arrive à insuffler ces petites clés sur le mental, sur l'état d'esprit, sur l'aspect psychologique, eh bien n'importe quel objectif sera atteignable par la personne. Plus rien ne sera impossible parce qu'on aura débloqué ces choses-là.
Il y a un moment, de toute façon, vous le sentez, hein, c'est le corps qui va demander sa dose de sport.
Ouais, bien sûr. Une fois que l'habitude est prise, bah, y a beaucoup de choses qui se passent, hein, dans l'organisme, au niveau des hormones, au niveau de pas mal de choses. Et puis, quand le corps n'a pas sa dose de sport, bah, bien évidemment, on le ressent. Le corps va réclamer ça. Après, faut savoir aussi de temps en temps se forcer un peu pour tenir ses séances, parce que l'être humain a tendance à être un peu feignant. Donc, si on se laisse aller par la fatigue, etc.
On va à la facilité, pas à la difficulté.
Complètement. Donc après une journée de boulot, si vous passez par la maison, une petite sieste sur le canapé, c'est très difficile de se relever pour aller au sport juste après. Donc l'idéal, c'est d'y aller tout de suite après, de pas faire de détour, de pas réfléchir. Et on en sort, on regrette jamais d'avoir fait une séance. On regrette jamais, même si on est très fatigué. Parfois, on ressort en bien meilleure forme qu'on a commencé.
Alors aujourd'hui, avoir un coach perso, c'est moins un luxe que ça l'était. C'est-à-dire que de plus en plus vous avez de plus en plus de gens autour de vous qui font appel à des coachs, et vous regardez les gens qui se sont transformés physiquement, vous expliquent qu'ils plafonnaient à la salle, qu'ils n'avaient plus de résultats et que finalement ils ont fait appel à un coach pour avoir plus de résultats. La difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un bon coach. Comment on fait pour trouver un coach qui soit bien formé, qui vous permette de vous dépasser?
Alors il y a,
j'ai envie de dire, un coach sérieux.
C'est une vraie question, et c'est pour ça qu'on a créé Evolucorp également. Alors la première chose, je rebondis sur une chose, effectivement, le coaching aujourd'hui est entré dans les mœurs beaucoup plus qu'avant. Et avant, c'était quelque chose de réservé vraiment à une
aux riches, aux patrons, aux stars.
Exactement, c'était un vrai service de luxe. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde seront prêts à s'accorder un budget pour cet aspect bien-être, santé, parce que la majorité des gens commencent à comprendre que c'est important, que c'est pour pour soi-même. Et c'est important d'avoir ce moment pour soi-même et de s'accorder un petit budget pour optimiser son temps surtout, pour optimiser son temps, pour éviter de perdre du temps et d'avoir des résultats qu'on n'aurait pas eu seul.
D'accord. Mais alors, petit budget, combien ça coûte en vrai un coach ?
La fourchette est large. La fourchette est très large. Allez, je dirais pour estimer une fourchette, compter entre 40 et 70 euros la séance. Après, ça peut varier selon les forfaits, selon les packs, etc. Et chaque coach va inclure différentes choses dans son pack.
C'est la séance. Là, on est en train de parler de la séance.
C'est la séance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous payez un service de coaching, vous n'allez pas payer simplement un accompagnant qui va être à côté pour compter le nombre de répétitions. Ça ne sert strictement à rien. C'est un vrai soutien au quotidien. En dehors de la séance, ça ne s'arrête pas à la séance, en fait. Donc, en dehors de la séance, c'est un travail continu qui peut durer jusqu'à une discussion dans la nuit à 23h, qui peut un soutien sur l'alimentation à n'importe quelle heure, c'est un travail continu en fait. Ça vous permet d'être épaulé au quotidien en dehors même de la séance de sport, et ce soutien là il est primordial en fait. La plupart des gens ont besoin de cette bienveillance et d'avoir quelqu'un qui souhaite réellement leur réussite, sincèrement leur réussite.
D'accord, donc le coach, qu'est-ce qu'on peut en attendre de lui finalement? Dans un programme sportif,
on peut attendre de lui qu'il mette tout en œuvre pour nous aider à réussir. Donc il a une obligation de moyens et il va souhaiter sincèrement notre réussite. Donc il va tout faire. Il y a plusieurs paramètres qui vont entrer en jeu dedans. Donc le sport en est un. Il va y avoir l'alimentation, il va y avoir le stress, la fatigue, etc. Donc il va tout mettre en œuvre pour essayer d'optimiser ces paramètres-là. Le stress, c'est une parenthèse, mais le stress est un élément à prendre en compte qui peut nuire directement à la progression. Peut-être que l'alimentation peut être très bien réglée, le sport très bien réglé. Si à côté de ça, il y a une source de stress particulière, l'organisme peut se bloquer et ça peut complètement nuire au progrès. Tout peut se bloquer à partir de là.
Bon, alors on commence par quoi là, aujourd'hui ?
On commence par...
Première question, première séance, qu'est-ce qu'on fait ?
On fait une petite séance test. Donc on fait une petite séance type qui sera adaptée aux objectifs, qui sera adaptée au profil et à l'estimation du niveau. Et puis on va placer la barre un petit peu haute, pas trop non plus pour ne pas dégoûter sur la première séance. On va placer la barre un petit peu haute histoire de voir physiquement où en est la personne et mentalement. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui traîne de la patte entre deux exercices ? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de très motivé qui va se donner les moyens d'aller jusqu'au bout ? Est-ce qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui va pas avoir peur d'aller de terminer en PLS, on en parlait.
Alors PLS pour tout le monde.
Position latérale de sécurité au bord du malaise.
Donc c'est la langue qui traîne, Kim.
Et ça c'est pas rare hein, sur les premières séances, faut pas s'inquiéter d'ailleurs, j'en parle. Faut pas s'inquiéter de se sentir pas très bien sur la première séance, on a souvent des états d'hypoglycémie. Le corps n'a pas l'habitude d'utiliser autant de sources d'énergie d'un coup. Donc, il va utiliser principalement la glycémie, le taux de sucre sanguin, qui est directement disponible dans le sang. Et cette chute de glycémie va provoquer un état un peu vaseux. On peut être au bord du malaise à cause de ça, mais c'est pas du tout inquiétant et ça passe très très vite.
C'est-à-dire que vous déconseillez pas aux gens d'aller jusqu'au bout? Parce que vous voyez toujours les gens qui commencent, alors ils font des séances de 2 heures, là, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas fait de sport, là, bim, séance de 2 heures, ils donnent tout sur la séance.
Alors attention,
faut pas y aller lentement.
Alors attention, je parle pas forcément du temps de la séance. Hein. 2 heures de séance, c'est assez long. 1 heure, c'est largement suffisant. Même 3 quarts d'heure hein, sur les premières séances, c'est largement suffisant. Par contre, l'intensité doit être là. Il faut aller chercher ses limites. En fait, il faut découvrir ses limites. C'est ça l'idée.
C'est-à-dire que ça sert à rien si on est trop lent. Enfin, si on est trop pépère.
C'est pas que ça sert à rien. Il va falloir se laisser le temps, bien évidemment, de progresser. On a tous été débutants un jour. Donc, il faut se laisser le temps de progresser, ne pas se placer la barre trop haute et accepter le fait de progresser doucement, etc. Mais avant de progresser, pour pouvoir progresser efficacement, il faut connaître ses limites. Pour connaître ses limites, il faut se tester un peu. Donc, en fait, sur les premières séances, il va falloir se tester un peu. Jusqu'où on peut aller. Et à partir de là, on va pouvoir adapter les séances en conséquence.
Donc là, comment vous vérifiez ça, vous, Farid ?
Sur les exercices, en enchaînant quelques exercices. Après, avec l'expérience, je sais directement à quel niveau, entre guillemets, j'ai affaire en face de moi. Donc, il y a certaines personnes qui vont être au bord du malaise, elles vont se reconnaître. Il y a certaines personnes qui vont être au bord du malaise au bout de 5 minutes du premier tour de la séance. Et puis, il y en a d'autres qui vont terminer la séance plutôt bien, avec un petit effet de fatigue. Et là, du coup, j'ai une meilleure idée du niveau physique et mental des personnes que j'ai à l'issue de cette première séance. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout l'état d'esprit, en fait. Parce que autant, si j'ai une personne qui physiquement n'est pas super au point, mais mentalement très motivée, je sais qu'on va pouvoir pousser un peu plus sur les prochaines séances, ce sera pas un problème. C'est pas une personne qui va être dégoûtée de l'effort. Au contraire, c'est une personne qui va être là pour se surpasser. Et ça, c'est hyper intéressant.
Bien, alors vous profitez de la présence d'un coach. Farid est avec nous, il a fondé Evolucorps. Farid Mebarki, si vous voulez lui poser des questions alors que commence la saison, eh bien 01 53 48 3000, le numéro du standard de Beurre FM est à votre disposition. 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, réussissez votre rentrée sportive aujourd'hui avec Farid Mebarki, qui est coach sportif et qui a fondé Evolucorps. C'est vrai que c'est de plus en plus le rêve des gens.
Il a aussi fondu. Hein.
Il a fondu, ouais, ça va.
Petit lapsus.
En fait, on est tous jaloux.
Je reviendrai plus volumineux, là.
Profitez de la présence d'un coach spécialiste des transformations.
On aura remarqué que c'est les moins bien lotis qui charrient.
Mais, tu sais, il nous reste que ça, Kim. C'est tout ce qui nous reste.
On a encore la langue qui est bien musclée pour le coup.
Exactement. Allez, on a Asiba qui est avec nous, qui nous appelle du nord de la France. Asiba, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Asiba.
Bonjour.
Bonjour. Je voulais savoir quel est le meilleur sport après 50 ans. Adapté. À l'âge.
Alors, c'est pas tant l'âge qui va entrer en jeu, c'est surtout votre condition physique à ce moment-là. À 50 ans, il y a des personnes qui sont très très en forme, qui sont même plus en forme que certaines personnes de 30 ans et qui sont capables de faire beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout est-ce que votre mobilité est réduite. Je ne pense pas à 50 ans normalement, sauf problème particulier spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est également s'il y a des soucis au niveau du dos, des soucis au niveau des genoux, etc. Et à ce moment-là, si vous pouvez faire la plupart des activités, ce qui va entrer en jeu maintenant, c'est cette notion de plaisir qui est très importante. Il faut que vous vous orientez vers une activité qui vous plaise un minimum. Après, la notion de plaisir peut venir par la suite. Avec les résultats, le plaisir peut naître. Mmh. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous détestiez de base. Je vous donne un exemple. Hein, si vous n'aimez pas le foot, on ne va pas s'orienter vers du foot.
Je ne suis pas sûr qu'Absiba avait très envie de jouer au foot là tout de suite. Mais maintenant, l'exemple est bon.
C'est surtout ça, en fait. Le plus important, c'est de faire une activité. Peu importe cette activité, il faut bouger, il faut se mouvoir, il ne faut pas se laisser aller.
Et alors, c'est ça, là-bas. Asiba, quelle est la dernière fois que vous avez fait du sport?
De temps en temps, je fais du footing, de temps en temps, mais j'ai un problème de périnée.
D'accord. Suite à une grossesse?
Oui. J'aime bien faire le footing, mais avec ce problème-là,
de périnée,
c'est pas quoi faire. Sais pas quoi faire. Dommage.
Alors, ce problème de périnée, il fait suite à une grossesse?
Oui.
D'accord. Et la rééducation du périnée, c'est mal passé ou vous l'avez pas faite?
Je l'ai pas faite.
Ah, d'accord. Alors, à ce moment-là, en fait, c'est hyper important d'essayer de régler ça. Il faut que... La grossesse date de combien de temps? C'était combien de temps?
Là, il y a plusieurs années.
D'accord. L'activité, une des activités les plus adaptées pour vous, ce sera le pilates. Est-ce que vous avez essayé les cours de pilates?
Non, j'ai pas essayé.
Je vous conseille fortement d'essayer des cours de pilates, mais des vrais cours de pilates, ça peut faire des miracles à ce niveau-là. En fait, c'est un cours justement de renforcement musculaire très profond qui va cibler la zone du périnée. Donc c'est hyper important et ça apporte énormément de bienfaits à beaucoup beaucoup de gens, et même des gens qui n'ont pas de problème de périnée. Hein. Mais du coup, je vous conseillerais d'essayer le pilates.
Ça se fait dans une salle de sport ou...
Il y a des salles de sport qui proposent des cours de pilates, sinon c'est des salles à part comme des salles de yoga, des associations, etc. Ça dépend du secteur où vous êtes. Essayez de vous renseigner peut-être sur Internet, essayez de faire un peu le tour des salles de sport. Après, ce qui est important, c'est d'avoir un coach diplômé en pilates. Parce qu'il y a des coachs qui ne sont pas diplômés en pilates et qui vont proposer des cours de pilates, mais c'est complètement différent. C'est vraiment une discipline à part. Il faut un diplôme à part en plus. Il faut un complément là-dessus.
D'accord.
Bon, écoutez,
d'accord. J'ai une autre question, Philippe.
Allez-y.
Une autre question, merci. J'ai mon fils qui aime bien faire la musculation. Est-ce que c'est un sport ou juste pour se former des muscles?
Alors, ça dépend quelle définition on donne au sport. Si on appelle sport activité physique, c'est une activité physique pleinement qui va apporter beaucoup de bonnes choses. Entretenir sa masse musculaire, ça apporte énormément de bienfaits. Ça va protéger le squelette, ça va stabiliser les articulations. On va avoir une meilleure posture, plus d'endurance musculaire, plus de force, plus de résistance. Et tout ça, ça entre en jeu dans la forme physique générale. Donc c'est une excellente chose. Maintenant, si on entend sport avec compétition, fédération, etc. Là, non, c'est pas une discipline sportive où on va avoir une fédération et une compétition avec des championnats, d'accord, etc. Mais ça peut être utilisé en complément d'un autre sport, comme de la préparation physique, ou ça peut être utilisé comme une activité physique dans le but d'améliorer sa condition physique et mentale et d'optimiser ses performances. C'est une bonne chose.
Il a quel âge, d'accord, votre fils, Asiba?
Il a 22 ans.
C'est une très très bonne chose.
Ouais. Si ça lui plaît. Ça dépend. Ça dépend de comment on définit la chose.
Ouais, ça dépend comment il utilise tout ça, mais c'est une très bonne chose qu'il fasse une activité physique, et si ça lui plaît, c'est encore mieux. Après, à lui de faire attention à bien faire les choses et à ne pas se blesser.
Merci Asiba. Ali est avec nous au 01 53 48 3000. Ali, bienvenue sur Beurre FM.
Allô, bonjour, ici c'est Ali, s'il vous plaît.
Ali, allô.
Bonjour.
Oui, allô, bonjour, c'est Ali.
Oui, Ali, allô.
Oui, je vous entends.
Très bien, quelle est votre question, Ali?
Moi, j'ai une petite question pour Farid. Dans la musculation, ça fait 2 ans que je suis dedans et j'essaie de développer les bras un peu, le biceps, triceps, et ça se développe pas.
Il y a beaucoup. Alors là, c'est une question assez vaste. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il faudrait voir quelles sont vos habitudes d'entraînement, à quelle fréquence, quelle méthode vous utilisez, comment vous faites les exercices, comment vous mangez à côté. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui entrent en jeu. Où est-ce que vous entraînez, en salle?
Oui, en salle, oui. Et je fais bien les biceps et triceps, hein, attention. Hein. Et je les travaille tous les jours.
Alors ça, c'est pas une bonne chose de les travailler tous les jours. Faut pas les travailler tous les jours. Le temps de récupération est important. Le temps de repos après une séance est important pour permettre aux cellules de se reconstruire et justement d'optimiser l'effort de la séance précédente. Donc, essayez quand même de laisser au moins 24 heures de repos, voire 48 heures entre chaque muscle. Ne refaites pas un muscle le lendemain si vous l'avez fait la veille.
Et faut les faire les deux en même temps ou bien juste un jour le biceps, un jour le triceps?
Il y a pas de règle par rapport à ça. Ça dépend du reste de votre semaine. Ça dépend de la répartition du reste des muscles sur la semaine. Soit vous faites une séance spéciale bras, spéciale biceps et triceps le même jour, soit vous décidez de séparer les deux et de faire une séance spéciale biceps et une séance spéciale triceps à part, ou de le compléter avec un autre muscle. Ça dépend de la répartition de la semaine.
D'accord. Moi, c'est souvent je fais un gros muscle avec un petit muscle, par exemple. Ouais.
Par contre, Ali, j'ai reçu un SMS justement qui provient de votre corps. Il y a le quadriceps qui pose la question. Pourquoi lui, vous le faites pas travailler?
D'accord.
Non, le quadriceps, c'est autre chose. Hein. Je peux te dire que c'est beaucoup plus douloureux.
C'est vrai, il faut oublier tout ça.
Par exemple, si je fais le biceps aujourd'hui, je dois laisser 24 heures pour le faire encore.
Si vous faites le biceps aujourd'hui, vous allez éviter de faire les biceps et le dos demain. Évitez le dos aussi parce que les biceps participent énormément quand vous faites des exercices de tirage. Donc si vous avez fait les biceps aujourd'hui, demain vous ne faites ni le dos ni les biceps.
D'accord, je peux faire les épaules.
Les pecs, les jambes.
Comme le disait justement Kim, les quadriceps. Les
jambes. D'accord.
Où est-ce que vous êtes dans quelle ville, dans quel secteur?
Je suis pas loin de Lyon. Hein.
D'accord.
On a une grande salle ici, mais...
Et vous avez essayé de vous renseigner auprès du personnel qui est sur place à la salle?
Oui, il y a des gens qui ont l'expérience et tout ça, mais on se dit comme ça des mots, des conseils, mais vaguement.
D'accord. En fait, c'est assez difficile de savoir d'où provient le problème sans vous voir et sans en discuter un peu plus longuement. Ça peut venir de beaucoup de choses, hein. Ça peut venir de beaucoup de choses. Mais si vous progressez pas, il y a forcément quelque chose à améliorer. Ça, c'est indéniable, c'est obligatoire.
Ah, d'accord.
Bon, vous venez voir Farid à Paris, hein, Ali.
Voilà, si vous êtes de passage dans la région, vous prenez.
Parce que lui, au niveau du biceps, on dirait mes quadriceps.
Philippe, j'aimerais bien venir à Paris, hein, mais c'est trop loin.
Venez nous voir. Avec Kim, on vous emmènera faire le tour du pâté de maison.
À l'occasion, quand on sera à Lyon,
ça serait bien de faire une délocalisation.
Excusez-moi, on vient de m'informer qu'une victime de Farid vient de faire son entrée dans les studios. On nous a donné une information qui vient de tomber à l'instant, qui vient de tomber de l'AFP, c'est qu'apparemment, sans Ventoline, le monsieur est au bord de la mort. C'est Tariq qui vient de faire son entrée.
En tout cas, on vous fait beaucoup d'amitié, Ali.
Ah ben je vous remercie beaucoup quand même. Hein.
Avec plaisir.
Bon courage, faut pas lâcher.
Allez, on lâche rien, comme on dit. À bientôt, Ali. Alors, on a Amine qui est avec nous au 01 53 48 3000. Amine, bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour.
Bonjour, Amine.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va bien, et vous ?
Ça va très bien, merci.
Je vous passe Farid.
Oui, j'ai une question, une petite question pour les chauffeurs routiers, c'est-à-dire ceux qui sont toujours assis.
Oui.
Le sport, le plus adapté.
Ça, c'est intéressant parce que on a beaucoup de gens qui ont des métiers de transport, hein, VL, les VTC, les taxis, tout ça, et qui demandent toujours parce qu'il y a beaucoup de ventre en plus.
Ouais, là, je préconise les abdos là. Il y a pas le choix. Non, au contraire, il faut une activité qui brûle beaucoup de calories en fait pour essayer de compenser cette inactivité entre guillemets, l'inactivité, hein, cette inactivité quotidienne. C'est ça la question en fait, hein, c'est quelle activité la plus adaptée à un métier comme celle-ci, comme
oui.
celui-ci. En fait, il faut une activité où ça bouge, où vous optimisez le temps de la séance en brûlant un maximum de calories. Donc en fait, il va falloir en baver. si vous partez sur des séances en salle de sport, votre objectif, ça va être de brûler énormément de calories. Donc vous allez adapter les méthodes en enchaînant plusieurs exercices à la suite, par exemple en travaillant sur des circuits training, un peu comme du crossfit. Si vous avez déjà entendu parler du crossfit, c'est une très bonne discipline qui peut très bien se compléter avec votre activité. Et puis en salle, si vous personnalisez vos entraînements, ça va être la meilleure façon de vous entraîner. Pour vous, ça va être d'enchaîner plusieurs exercices à la suite, donc 3, 4, 5, 6 exercices à la suite, sans temps de repos ou avec le moins de temps de repos possible, de façon à brûler un maximum de calories en peu de temps et à être efficient. D'accord. C'est l'objectif. Mais il faut bouger, il faut faire quelque chose, parce que dans ce genre de métier où on n'est pas très actif, le laisser aller prend vite le dessus et on le regrette assez vite.
Est-ce qu'il y a des abdos qu'on peut faire au volant, par exemple ?
Il n'y a pas d'abdos qu'on peut faire au volant, mais il y a des exercices de respiration qui vont renforcer le diaphragme ou les muscles profonds, le transverse, etc. Vous pouvez rentrer tout le bas-ventre au maximum, aspirer le bas-ventre en soufflant le plus possible. C'est un exercice profond, mais ça ne va pas jouer sur la perte de ventre. Hein.
Une petite question subsidiaire, les VTC mangent beaucoup de grec à midi, donc ça se passe comment ?
Là, tu sais que tu mets le point, tu mets le doigt sur quelque chose de très important, bien sûr, parce qu'au-delà de l'inactivité, c'est des métiers où l'organisation n'est pas facile et l'alimentation s'en trouve très, très fortement perturbée. Et je pense qu'avant même parler de sport, il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Il faut que l'alimentation soit un petit peu plus optimisée, peut-être préparer des repas à l'avance, essayer de privilégier des salades si on mange dehors. Il y a de quoi faire, hein, maintenant. Il y a des grecs, mais vous allez dans la boulangerie au coin de la rue, il y a des salades, il y a du fromage blanc, il y a de bonnes choses en réalité quand on ouvre les yeux.
D'accord.
Bah, vous avez mis Amine au crossfit, c'est ça que j'ai compris ?
Ouais, moi je vous invite à tester le crossfit.
D'accord. Et la piscine, ça va le faire ?
La piscine, c'est une activité très complète, c'est une bonne activité. Pour les articulations, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impact ferme du sol. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, si vous allez à la piscine, il faut nager pendant une heure, quoi. Que des allers-retours, c'est fatigant, faut le faire. Mais si c'est pour faire deux longueurs et se reposer 10 minutes, ce sera pas très efficace. Et puis si vous faites de la natation, faites attention à ne pas nager avec la tête hors de l'eau, ce qui est très mauvais pour les cervicales.
Justement, je voulais vous présenter un invité qui vient d'arriver, gros client. Son spectacle, justement, il va falloir qu'il rentre juste deux secondes pour Philippe. Je pense que ça peut être intéressant. C'est un cas. Je pense qu'il y a du travail.
Ah oui, il y a du travail pour Farid, là.
Farid, je pense qu'il y a du boulot. Tariq, à côté, c'était de la rigolade. Il s'appelle Wahid de Jamel Comedy.
La forme.
Voilà, coach.
La forme, oui.
Coach Wahid, Wahid, ah, coach.
Alors, c'est toi dont je vais m'occuper.
Pas, je Asdine, au plaisir en tout cas.
Merci.
Bonne rentrée. On a le temps. Amine. Est-ce qu'on a le temps de prendre Asdine ou pas? Asdine, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour Philippe. Bonjour à notre coach.
Farid. Bonjour. Ouais, allez Asdine, on vous écoute.
Juste un petit renseignement. En fait, je m'apprête à m'inscrire dans une salle de sport et ça reste un projet parmi d'autres. Je veux savoir. Faut compter combien par semaine, ça veut dire que je fais ça 2-3 fois par semaine, toute la semaine, ça fait en fait une fréquence de...
Quelle fréquence par semaine?
C'est ça, quelle fréquence?
Est-ce que vous aviez déjà fréquenté d'autres salles de sport avant ou c'est
non,
la première fois?
C'est une première expérience, c'est pour ça que je suis un petit peu frileux.
D'accord, non, il faut se laisser le temps de progresser.
Et là, pour moi, c'est une première expérience, déjà c'est un frein, c'est un petit peu... et je veux savoir une fréquence, par exemple, de
3%. Alors, on commence par combien quand on s'inscrit pour la première fois dans une salle de sport? L'idéal, Farid?
L'idéal,
2, 3.
Ouais, 3, c'est une très bonne moyenne. 3, c'est une très bonne moyenne pour commencer, c'est top. 2 minimum, c'est très bien. Ne vous placez pas la barre trop haute. Je répète encore une fois, c'est très important. Faut pas se mettre de pression. Quand on démarre une activité physique, faut pas se mettre la pression. Faut que ce soit justement un moyen d'évacuer la pression. Faut pas que ça ajoute une charge mentale au quotidien en se disant j'ai ma séance, faut pas que je la rate, etc. Non. Faut pas se mettre la pression, on y va tranquille. 2-3 séances par semaine pour commencer, c'est très bien. Il faut laisser le temps au corps d'assimiler cette habitude-là. Et une fois que ce rythme sportif sera intégré dans le planning et ne sera pas très contraignant, à ce moment-là, on envisagera d'ajouter une quatrième, une cinquième séance.
Ce qui est déjà beaucoup, hein. 4 séances par semaine, c'est déjà balèze.
2-3 séances, c'est une très très bonne moyenne.
Et donc des séances, quand on commence, de combien? 1 heure, 45 minutes?
45 minutes, 1 heure pour commencer, c'est très très bien. 1 heure et demie maximum, ça sert à rien d'aller au-delà d'une heure et demie. Enfin, ça sert à rien. On a de quoi être très efficace en 90 minutes.
Bien. Asdine, merci pour votre question. Profitez de la présence du coach Farid pour poser vos questions ce matin au 01 53 48 3000. Réussissez votre rentrée sportive. 01 53 48 3000.
À votre santé. Reviens dans un instant. Beurre FM, 9h-10h. À votre santé avec Philippe Robichon.
Et ce matin, vous réussissez votre rentrée sportive avec Farid Mebarki, qui est coach sportif. Alors, ça parle de diète, hein. En ce moment, hors antenne, spécialiste des transformations physiques et cofondateur de Evolucorps. Donc, on n'a rien sans rien. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que si vous voulez des résultats, il faut se faire un peu mal. Et ça fait même très mal. Ça pique, comme on dit.
Ah, ça fait du bien après. Hein.
Ça pique. Hein. Moi, je suis un témoin oculaire. J'ai fait 6 mois, même plus. Hein. On fait 8-9 mois avec Farid.
On a presque un an, ouais.
Ça fait mal, mais c'est bon d'avoir mal.
C'est bon d'avoir mal. Après, tu prends, t'as envie, en fait. Tu veux avoir mal. En fait, quand tu fais une séance et t'as pas mal, tu dis, j'ai pas eu mal, c'est chelou. C'est que j'ai pas bien travaillé, tu vois ce que je veux dire?
Et ce qui est bien, c'est que le corps est bien fait parce qu'il en demande toujours plus, en fait.
Exactement. J'ai fait le mois de Ramadan aussi. Hein.
Et ça, mentalement, je peux te dire que ça l'a boosté. Hein.
Ah, franchement, c'était dur. Le mois de Ramadan, c'était dur. Mais c'était bien, mais c'était bien.
Ouais. Alors, on a Mohand qui est là. Mohand, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Bonjour, Mohand.
Bonjour Philippe, bonjour Farid.
Bonjour.
Je vous appelle, j'ai une question. Donc moi j'ai toujours fait du sport en salle. Et là ça fait un peu plus d'un an, j'ai une douleur au niveau de l'épaule gauche suite à un déménagement. Donc on m'a diagnostiqué tendinite, légère tendinite. Et je ne sais pas si j'aimerais bien reprendre, mais j'ai toujours cette gêne au niveau de l'épaule gauche. Je ne sais pas si je peux reprendre. Est-ce qu'il y a une activité que je peux faire en attendant?
Alors déjà pour commencer, faut essayer de ne pas lâcher. Donc sur le sport, garder un pied dedans, essayer d'en profiter de cette période pour mettre l'accent sur les jambes, par exemple. Mettez l'accent sur le bas du corps, mettez l'accent sur la sangle abdominale et c'est éviter au maximum d'utiliser l'épaule parce qu'une tendinite ça peut devenir très contraignant. C'est pas méchant en soi, mais si ça dure, ça peut devenir handicapant et quand c'est mal soigné, ça peut traîner assez longtemps. Donc essayez de bien la soigner, reposer l'épaule. Vous pouvez glacer l'articulation si ça vous fait du bien. Vous pouvez mettre des pommades conseillées. Essayez de voir le médecin là-dessus. Une fois que ça va mieux, vous avez des exercices spécifiques qui vont renforcer la coiffe des rotateurs, qui sont très importants à faire. Il y a un exercice notamment que vous pouvez faire avec élastique ou avec une poulie, ou même avec un petit poids d'ailleurs, qui s'appelle le L-Fly, si vous tapez ça sur Google. L-Fly, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un exercice qui va renforcer les muscles profonds situés dans le secteur de l'épaule et de l'omoplate, donc ce qu'on appelle la coiffe des rotateurs. Et ce groupe de muscles-là, quand il est bien solide, l'épaule est bien mieux maintenue, et ça, c'est hyper important. C'est hyper important de prévenir en fait la suite pour pas que la blessure revienne derrière.
D'accord. Farid, quand vous dites il faut reposer l'épaule,
ouais.
La conduite, par exemple, je peux toujours conduire?
Vous pouvez conduire, mais il faut, si vous sentez qu'il y a certains mouvements où l'épaule tire un peu, ça gêne, essayez d'éviter au maximum ces mouvements-là, en fait. Ce qui est délicat avec les tendinites, c'est que, au quotidien, on ne peut pas complètement reposer la zone, que ce soit l'épaule, que ce soit le genou, etc. Donc même s'il n'y a pas d'activité physique, comme on va bouger, on va rester mobile, ça va être assez compliqué à se rétablir. Il faut faire le maximum pour laisser reposer la zone et essayer d'éviter justement de solliciter le tendon. Donc si vous conduisez, privilégiez des petits gestes avec l'épaule douloureuse, essayez de favoriser les mouvements sur l'autre bras. Faut être attentif aux sensations, en fait. Soyez très attentif à vos sensations et essayez de minimiser l'effort de l'épaule.
D'accord. Et c'est normal qu'une douleur dure un an, un petit peu plus?
C'est pas censé. Enfin, normal et pas normal.
Alors, c'est la question. La question, c'est normal, ouais.
Moi, je vais pas dire que c'est anormal. Ça devrait pouvoir se régler avant si c'est bien pris en main. Maintenant, il y a certaines douleurs, certains problèmes qui durent longtemps, des fois très longtemps, plusieurs années malheureusement. Et ce qui est délicat souvent, c'est que même le médecin parfois va pas poser le bon diagnostic tout de suite, et du coup vous allez partir sur un mauvais traitement et ça fait perdre du temps et ça, des fois, ça aggrave la blessure et ça c'est très dommage. Il faut vraiment, en fait, faut essayer de mettre le nez dedans et de savoir ce que c'est exactement.
Parce que là, c'est le troisième médecin que je vois, et c'est le diagnostic, c'est toujours le même. C'est toujours un tendinite.
Donc c'est toujours la tendinite.
C'est toujours la tendinite. La dernière, il y a une semaine, c'est une échographie, donc c'est une tendinite. Donc j'ai que 2 séances de kinéthérapie.
Il n'y a que le kiné?
Oui, c'est tout.
Ouais, donc, le kiné.
J'ai des anti-inflammatoires, mais j'ai dit que la douleur est supportable, donc j'ai pas envie d'en prendre.
D'accord.
Donc là, j'ai que du kiné à faire.
Il y a du mieux depuis les séances de kiné? Ça va mieux ou c'est pire? C'est pareil?
Pour tout vous dire, ça fait une semaine que j'ai vu le.
Ouais.
J'ai du mal à trouver déjà des séances.
Ouais.
Pour déjà faire de la kinéthérapie, j'ai du mal. Vous savez, le rendez-vous, ce qu'il faut attendre.
Ce que disait Farid, Monde tout à l'heure, c'est que c'est d'accord pour l'épaule, mais il ne faut pas négliger le reste. Donc le reste peut travailler.
Ouais. Mais même pour courir, on aura toujours l'épaule qui n'est pas bougée. C'est ça que je veux savoir.
C'est vrai.
Quand je cours, est-ce que ma main, je ne peux pas l'immobiliser?
Soit vous immobilisez l'épaule, soit vous évitez les impacts. À la place de la course, vous allez faire du vélo, de l'elliptique, de l'escalier, mais quelque chose où il n'y a pas d'impact. Vous allez éviter les sauts et justement les impacts qui peuvent apporter un stress à l'épaule. Ça, il faut éviter, c'est vrai. Mais vous pouvez travailler tout le reste. Et surtout, l'essence de kiné, c'est une bonne chose. Normalement, la coiffe des rotateurs, vous allez la travailler avec le kiné.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Monde, merci pour votre appel, Farid. Je voudrais qu'on voit avec vous les 5 points pour tenir toute l'année.
Alors, si on va récapituler un petit peu, tout ce qu'on a dit depuis le début. Selon moi, il y a 5 points essentiels pour que votre année sportive soit pérenne et pour que, si on se reparle en septembre 2020, vous êtes encore dedans. Le premier point, la première chose essentielle, c'est de savoir pourquoi on le fait. Trouvez un objectif et nommez-le, c'est important. Essayez d'avoir un objectif précis. Donc ça peut être une perte de poids, un objectif de poids, ça peut être un objectif de bien-être, ça peut être un objectif sur la santé, ça peut être un objectif sur l'état d'esprit, simplement évacuer les mauvaises ondes, le mauvais stress, etc. Mais il faut avoir un objectif, il faut savoir pour quelle raison on le fait. Le deuxième point important, c'est le plaisir. Il faut trouver une activité qui vous plaît, une activité que vous n'allez pas détester. Après, cette notion de plaisir peut parfois venir aussi par la suite avec les résultats et on peut finir par prendre plaisir à l'activité. Mais c'est important de choisir quelque chose qu'on déteste pas de base. Si c'est trop, si on y va à contre-coup à chaque fois, à contre-cœur, ça peut être compliqué.
À la première pluie, au premier coup de froid, c'est mort.
C'est ça, exactement. Le troisième point, très, très, très important. Très important, celui-là, on le souligne, c'est la patience. C'est la patience. Ne soyez pas impatient. Laissez-vous le temps et projetez-vous sur le long terme. Le sport et le court terme ne font pas bon ménage. Quand on adopte de nouvelles habitudes de vie, c'est un mode de vie qui doit s'inscrire sur le long terme. Donc projetez-vous assez loin, laissez-vous le temps de progresser. On a tous été débutants un jour.
Mais combien, par exemple, Farid ?
Comptez en trimestre. Laissez-vous déjà un trimestre. Un premier trimestre,
c'est bien, ça. Ouais.
Histoire de faire un premier bilan. Puis ensuite, on va jusqu'au semestre. Et à partir du semestre, on continue jusqu'à avoir fait une année entière. Et normalement, quand on a terminé une année, ça y est, on continue, on s'arrête plus. Mais laissez-vous le temps de découvrir l'activité, d'assimiler les nouvelles choses et de progresser doucement. Pas de pression. Super important. On se met pas de pression. Ça doit pas être, on doit pas s'ajouter une charge mentale. Quatrième point, il faut que ce soit pratique. C'est important. Facilitez-vous la tâche. Les horaires. L'organisation sur votre planning, c'est important. Le temps de trajet est important. Essayez d'avoir des choses faciles à atteindre, des salles qui sont à côté, qui ont des plages horaires assez larges, etc. Il faut vous faciliter la vie, c'est hyper important parce que dans l'année, durant les périodes un petit peu moins motivées, ça va être compliqué de tenir ses mains. Et puis le cinquième point, très important, c'est avoir un partenaire au sens large, c'est-à-dire soit un binôme d'entraînement. Parce qu'on se motive à deux, c'est important d'avoir un binôme qui vous entraîne vers le haut, pas vers le bas, c'est très important. Soit avoir le soutien d'un proche, de son mari, de sa femme, de ses frères, de sa sœur, peu importe. Le soutien des proches, c'est important parce que ça ne s'arrête pas qu'à la salle. Et dans le meilleur des cas, avoir le soutien et l'encadrement d'un professionnel, donc d'un coach ou d'un entraîneur qui sera qualifié pour ça. Et qui sera compétent pour vous tenir sur la barque.
Bon, sans le faire exprès, vous nous avez fait les 5 P de la réussite hein, pour tenir toute l'année, Farid.
Exactement.
Alors, Evolucorp, c'est des nouvelles adresses d'ailleurs. Hein.
Alors, Evolucorp, on est au Fitness Park d'Aéroville à Roissy, donc depuis le mois de janvier. On est au Fitness Park de Pavillon-sous-Bois. Et à partir de la semaine prochaine, on sera au Fitness Park de Villemomble. Vous avez tous le droit à un coaching offert en téléchargeant l'application Evolucorp. Donc en téléchargeant l'application, vous sélectionnez votre salle, vous choisissez votre coach, vous avez le planning du coach et vous pouvez caler votre séance offerte.
Voilà, et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Merci Farid. Allez, on réussit notre année sportive aujourd'hui.